Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Itinérance, et aujourd'hui nous allons voyager le long de la longitude 435 en étant au 6 bis rue Sainte-Catherine à Nîmes pour l'exposition Enguerrand David qui dure jusqu'au 28 octobre. Et pour nous en parler, puisque l'artiste est belge et n'est pas là, il va peut-être revenir pour démonter.
Alors actuellement il est reparti pour une autre exposition, enfin un autre travail de sculpture au Japon. Il reviendra ici, peut-être qu'on fera un événement pour la fin de l'exposition. Et puis, voilà. C'est aussi un grand voyageur, Enguerrand. Et donc, après le Japon, il repartira en Italie pour faire une autre sculpture.
Alors, nous, on va se contenter de la longitude 435, qui est le nom de cette exposition, dans la charte graphique donc, de Pamela. Chaque année, vous choisissez une charte graphique.
Chaque année, on décide d'une espèce de saison graphique. Voilà. Aussi pour nous, comme ça, ça marque une différence. On a une collection d'affiches.
J'étais déjà venue vous entendre. Et vous êtes donc 6 artistes qui partagez ce lieu. Et là, on parlera plus spécialement de l'exposition, enfin, du rendu, de la restitution d'une résidence. Hein, vous étonnez, un artiste qui fait que passer. Voilà, il a travaillé 4 semaines. Comment résumer un petit peu Pamela tout de même ? Pour nos auditeurs.
Eh bien voilà, Pamela, c'est la réunion de 6 artistes. Et donc Pamela est un artiste Runspace. Donc les artistes Runspace, c'est tout un réseau en France et en Europe de lieux. Donc on pourrait dire que ce sont des lieux qui sont pensés par et pour les artistes. Des lieux de production et aussi donc des lieux d'exposition.
Et là, vous essayez de faire 2 expositions par an. Et là, c'est la seconde résidence.
C'est la seconde résidence qu'on propose. On avait commencé au début avec Pamela, on était plus on avait un appétit un peu plus important. On s'est rendu compte qu'il fallait mieux réduire la voilure pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a le temps nécessaire à l'organisation des expositions, et puis aussi on essaye de défendre un modèle un peu plus vertueux sur la production et les expositions, et donc de dégager plus de moyens, plus de confort et plus de moyens financiers et plus de les artistes puissent être rétribués quand ils viennent. Donc voilà, on a décidé de moins d'expositions mais monter plus solidement.
Voilà. Alors solidement, on va en venir à Enguerrand David qui est sculpteur sur sable. Et vous disiez financièrement et sculpteur sur sable, vous m'avez dit il a eu besoin de 3 tonnes de sable.
Oui, 3 tonnes et demie.
3 tonnes et demie. Et je vais vous poser, bien sûr, les questions que tout le monde vous a posées, puisque là, moi, je vois la restitution, je vois le rendu, je vois un Saint-Nicolas à peu près 1,50 m de long, combien 80 cm
de hauteur,
de haut, qui est en train aussi un petit peu de sécher. Donc, on voit des petits grains de sable au sol. On voit la barbe qui devient un peu plus poreuse. Mais j'ai vu sur Facebook le vernissage, j'ai vu donc les photos de comment c'était fait. Et j'aimerais que vous nous parliez justement de... Vous m'avez dit un mot qui m'a vraiment interpellée. C'est pas un château de sable, c'est pas une construction, c'est au contraire un bloc de sable. Et c'est « on retire ». Donc c'est assez surprenant, et vous m'avez dit que des enfants, quand ils viennent, ils sont assez ébahis.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur une pratique du château de sable qui s'éloigne de la pratique de la construction en sable, telle qu'on peut la pratiquer, nous, de manière tout à fait novice sur les plages l'été. On va rajouter à un tas, par un système de modelage, on va rajouter de la matière. Enguerrand, c'est un sculpteur, et dans la définition, on va dire, stricte de la sculpture, donc il travaille par retrait de matière. Donc il fabrique un bloc de sable compressé qui correspond à ce qu'il a l'intention de sculpter dedans. Et voilà, donc il retire la matière. Donc c'est vraiment un geste traditionnel de la sculpture.
C'est pas du marbre, c'est du sable.
C'est pas du... Voilà. Et donc, avec toute la question de pérennité qui va avec.
Oui, je vous ai posé la question, mais ça va devenir quoi cette... Il n'y a pas la mer pour l'emmener, il n'y a pas...
Il n'y a pas la mer pour l'emmener, Enguerrand...
Il n'y a pas le vent non plus.
Non plus, ouais.
Puisque vous m'avez dit qu'on ne peut pas faire de château de sable dans le désert, puisque le sable emmené par le vent ne peut pas faire de château de sable.
C'est, alors moi, c'est des choses que j'ai apprises au contact d'Enguerrand, qui lui a forcément une connaissance très précise du sable. Il a choisi son sable dans une carrière proche de Nîmes. Il faut que ce soit un sable chargé, voilà, un peu
de certains matériaux.
Et en effet, il m'avait expliqué que le sable du désert, du fait que ce soit une érosion due au vent, les grains étaient ronds et qu'ils ne pouvaient pas s'agglomérer ensemble. Donc c'est un sable qui ne fonctionne pas.
Alors on va parler surtout de ce Saint-Nicolas, qui est en train de germer. Hein. Il a mis des graines et il y a quelques graines qui ont germé. Dans les deux tas de sable qui sont au sol également, il y a deux peintures.
Exact.
Mais j'aimerais qu'on revienne sur ce 435, puisque c'est le titre de l'exposition et de cette itinérance. C'est la longitude, donc le long du même méridien, il y a...
Bruxelles et Nîmes, en fait. Alors il s'en est rendu compte, lui, le premier, en préparant son périple, et puis on l'a vérifié ensuite quand on a travaillé ensemble, parce que c'est le principe d'une résidence, c'est que...
Bien sûr, on travaille ensemble, on recherche,
on produit un texte, on produit un travail critique également, et donc voilà, cette longitude 435, c'est ce qui lie Bruxelles à Nîmes. Si vous prenez une boussole place du marché de Nîmes, vous pointez le nord et vous marchez 780 km, vous arriverez place du marché à Bruxelles.
Où le palmier a été coupé hier.
Voilà.
Donc c'est une place du marché sans son palmier. Donc 4,35 de longitude, ça l'a inspiré donc d'un point de vue géographique, mais aussi d'un point de vue tradition, c'est-à-dire, ou histoire. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Bruxelles et Nîmes?
Qu'est-ce qui se construit en effet dans un rapport franco-belge de deux villes, dont une, on pourrait dire, Bruxelles étant une construction qui, par le biais de Léopold II en particulier, s'est rêvée française, et le lien avec une ville du sud de la France qui se pense romaine. En tout cas, qui revendique son passé romain.
Ouais. Donc Léopold, vous en avez parlé pour la grande toile qui s'appelle « Ce n'est pas Versailles ».
Ce n'est pas Versailles ici, voilà. Une grande toile qui représente donc la façade du Palais Royal de Bruxelles que Enguerrand a choisi justement parce que c'est un bâtiment, donc cette façade a été rajoutée par Léopold II au début du XXe siècle. Elle est dans ce qu'on appelle le style Beaux-Arts, style architectural éclectique, et qui est donc la réunion de plein de styles en fait.
Vous me disiez comme l'Opéra Garnier en fait.
L'Opéra Garnier aussi en style Beaux-Arts, enfin généralement c'est toutes ces... Style éclectique et style Beaux-Arts est très lié au programme sociopolitique que ces monuments étaient censés aussi soutenir.
Oui, mais c'est aussi une sédimentation de l'histoire, les différentes couches géologiques, les différentes périodes d'histoire. Et dans le sable, il n'y a pas de couche géologique. Ça repart après en poudre, ça repart dans le vent. Donc ne parlons pas géologie, ça vous gênerait.
Alors, non, ça ne me gêne pas. C'est-à-dire que j'ai résisté dans le texte. On n'arrive que très tard à une très 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 petite référence géologique auquel j'ai résisté le plus possible, parce que c'était un peu évident. Mais ce qui est intéressant aussi, cette question de pérennité de la sculpture de sable, c'est que ce sable, il va devenir autre chose ensuite.
Il est au point de départ d'un tas de matériaux, hein.
En fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'aujourd'hui c'est un Saint-Nicolas, mais demain peut-être qu'on va le proposer à quelqu'un et que ça va peut-être devenir une dalle de terrasse ou un escalier.
Alors moi je me pose la question, si on voulait le conserver Saint-Nicolas, on devrait faire comment? Puisqu'il sèche, vous m'avez dit que c'est ses doigts de pied qui ont séché en premier.
Oui. Alors la sculpture en sable, c'est assez étonnant souvent pour les gens qui la découvrent ici, en fait c'est une très 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 bonne pérennité si c'est conservé, dans à l'abri du vent, de la pluie, de l'humidité, on pourrait conserver cette sculpture pendant des années, mais malgré tout...
On garde même l'idée que c'est éphémère, peut-être.
On garde l'idée que c'est éphémère, d'autant plus que donc, l'idée de cette résidence aussi, c'est pour Enguerrand, il est souvent dans une position de répondre à des commanditaires.
Répondre à des commanditaires.
Ici, il a la liberté de faire ce qu'il veut, et c'est pour ça aussi qu'il a rajouté des graines. dans son sable, qui donc sont en train de germer, puisque ça l'intéressait aussi, qu'il y ait quand même cette espèce comme ça de nature qui reprenne possession de...
Bon, c'était pas sûr, hein, parce que les lentilles, on les sème dans des cotons au moment de la Sainte-Barbe. Ça correspond à l'Avent également. Et ça a poussé tout de même.
Ça a poussé. Ça fait partie aussi de cette question de la recherche et de la création. C'est que tous les membres de Pamela, à un moment donné, sont allés chercher des ressources auprès de gens qui connaissaient, qui avaient ce genre de compétences. Il faut savoir comment est-ce qu'on peut faire germer quelque chose dans le sable. Mais en fait, la nature est plus forte que nous, parce qu'en fait, ça s'est passé très bien et que ces graines ont germé d'elles-mêmes d'une manière très efficace.
Alors, Enguerrand a travaillé 4 semaines. Il y a eu une semaine, en fait, pour la livraison du sable, le brouettage, hein, parce que 3 tonnes dans la rue...
C'est ça, il a fallu... Il y a toute la... Voilà, on est plutôt dans du...
Trois semaines de travail.
Pour nous, on est plutôt dans une organisation type travaux publics. C'est assez nouveau pour Pamela. Donc la réception, donc le blocage de la rue, réception avec un camion grue des 3 tonnes de sable, puis rapatrier les 3 tonnes de sable dans l'espace de Pamela. Et puis là, ensuite, le travail...
Faire son bloc.
Faire son bloc. Donc ça veut dire boîte coffrage, de l'eau.
Donc une semaine, en fait, pour avoir ce bloc. On imagine un bloc de marbre qui a du sable. Et vous qui avez assisté à toute la résidence, on a parlé de la Belgique, mais je pense qu'il y a eu d'autres idées que Saint-Nicolas ou que la Sainte-Barbe. Comment est venue peu à peu cette idée de Saint-Nicolas? Alors vous avez dit franco-belge, la tradition... Et puis Saint-Nicolas, il est sur le pont Saint-Nicolas.
C'est ça. En fait, ce qui l'a intéressé, c'est que Saint-Nicolas est quasiment absent du sud de l'Europe. C'est vraiment...
C'est du nord de l'Est.
C'est ça, en Belgique, nord-est de la France. Très peu ici. Saint-Nicolas, il remplace le Père Noël dans ces pays-là. Mais au fond, le Père Noël...
4 décembre,
c'est, oui. C'est un peu une forme de...
C'est récent, hein, le
aussi,
Père Noël.
Le modèle... On sent qu'il est construit sur le modèle de Saint-Nicolas. Mais ce qui l'intéressait aussi, c'était... parce qu'Enguerrand, sa formation, c'est... l'histoire de l'art, en fait, et l'histoire de l'architecture en particulier.
Donc la mémoire, le passé...
Exactement. Et ce qui l'intéressait, c'est dans cette figure de Saint-Nicolas, c'est qu'en fait, et donc c'est pour ça qu'ici, il révèle des jambes qui portent des sandales ailées, c'est qu'en fait, Saint-Nicolas a hérité des attributs de Mercure, qui était un dieu particulièrement populaire, en fait, dans la Gaule, la Gaule romaine à l'Antiquité.
Donc voilà le lien entre Bruxelles et Nîmes.
Entre autres. Et puis, il faut savoir que dans la tradition aussi, l'idée, c'est que... Saint-Nicolas, il part d'Espagne avec les cadeaux pour les enfants et avec son âne qui transporte les jouets et qui donc remonte jusqu'en Belgique, jusqu'au nord de l'Europe.
Et passe par le pont Saint-Nicolas.
Peut-être passe-t-il par le pont Saint-Nicolas.
Il y a peut-être des traces
de sabots. En sachant que Saint-Nicolas, c'est une référence assez rare dans le... qu'il a aussi dans la logique de ce parcours Nîmes-Bruxelles, Saint-Nicolas a hérité aussi par sa tribu d'être protecteur des voyageurs.
D'où les ailes sur
les ailes,
pourquoi il découvre ses jambes.
Voilà.
Alors, on a oublié de dire que c'est comme un gisant aussi, un Saint-Nicolas fatigué de son voyage, mais avec un côté tout de même très joyeux, avec cette barbe très, très prolifique. On va revenir à cela dans la seconde partie, mais je vous propose qu'on écoute un chanteur belge, ou pas belge, mais qui parle de la Belgique, parce que le sable, les plages de sable, Ostende, les plages du Nord, donc nous écoutons.
Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes, pour arrêter les vagues, et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'Est, écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous parcourons donc la longitude 435, qui est le nom de l'exposition d'Enguerrand David donc à Paméla, donc 6 bis rue Sainte-Catherine, visible jusqu'à la fin octobre. Et nous revenons donc à Saint-Nicolas, qui est une sorte d'Enguerrand David, qui est une sorte d'agrégat des cultures antiques, du Moyen-Âge, de l'Espagne. On remonte jusqu'à Bruxelles. Et il y a une autre œuvre d'Enguerrand David, sur la gauche, qui est une toile, qui s'appelle Zinecke Smurf. Alors, Smurf, je sais que c'est Schtroumpf.
Tout à fait.
Il est bleu. Enfin, il a une partie bleue.
Il a la peau bleue.
Il a la peau bleue. Il a des boucles blondes. Il a un chapeau phrygien blanc.
Tout à fait.
Et un magnifique cadre doré qui doit remonter à Léopold II.
Sans doute, oui.
Il est en carton, je ne crois pas. Et alors, ce tableau, il y tenait beaucoup, Enguerrand David, parce que pour lui, c'est une sorte de syncrétisme de tout ce qu'il
veut
dire.
C'est ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on a complètement oublié de dire et de noter. Mais en fait, ce Saint-Nicolas, son titre, c'est syncrétisme.
Ah.
Le titre que, voilà, et j'avais complètement, voilà, c'est quelque chose que j'avais oublié de dire.
Donc l'intérêt des conversations.
Et donc qui ramène donc bien cette idée qu'en effet, c'est une construction de différentes influences. Et alors oui, en effet, donc cette sérigraphie qui est présentée en face de ce Saint-Nicolas, qu'il a produite il y a l'année dernière, et en effet, donc qui fonctionne de la même manière. Donc c'est un buste de Canaletto, une photo qu'il a prise à la Galerie des Offices à Florence, et donc qui porte ce bonnet phrygien, donc qui est dans l'imaginaire républicain français quand même quelque chose d'absolument essentiel, et qu'il a donc transformé en schtroumpf par l'ajout de couleurs. Et Zinecke, donc le titre Zinecke, c'est un mot de patois bruxellois, un mot qui remonte au XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIe je crois, mais qui avait à l'origine un côté très extrêmement péjoratif. En résumé, Zinecke, ça veut dire bâtard.
Illégitime.
Alors, allez, je pourrais vous raconter l'histoire du mot Zinecke, qui est très intéressante, mais c'est vraiment lié au chien, en fait. En fait, Bruxelles se retrouve, c'est la peste envahit Bruxelles, et pour se débarrasser des rats, on fait venir des chiens. Et comme les chiens, évidemment, pullulent également, et que, voilà, entre eux...
Il y a plein de bâtards.
Produit plein de bâtards, et ça créera le mot Zinecke. Là, l'histoire, elle est un peu plus triste, puisqu'en fait, ça fait référence à la Seine, la rivière qui passe à Bruxelles. Mmh. Et parce que pour s'en débarrasser...
On les noie.
On les noie. Et donc, ça donnait le terme Zinecke.
Oui, je dirais que ce qu'on appelle un bâtard, un chien bâtard, est souvent très, très agréable, très joyeux. Oui, très... Donc, on est à nouveau dans ce syncrétisme, dans cet amalgame, dans cette pluriculturalité.
Oui, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, donc, au-delà de ces l'origine péjorative du terme, aujourd'hui, Zinecke, c'est un terme revendiqué par les Bruxellois. Il y a une Zinecke parade régulière qui célèbre donc un défilé qui célèbre le multiculturalisme de la ville et que les Bruxellois se revendiquent comme Zinecke, comme mélangé, comme étant.
Enfin, Bruxelles, c'est tout de même un cas à part dans la Belgique. Ça a une identité très. Et Enguerrand David est Bruxellois ?
Oui, ah oui, tout à fait.
Il le revendique.
Tout à fait Bruxellois, non, parce que voilà, il a grandi, enfin, c'est un truc. Ouais.
Et justement, on parlait de ces artistes belges que l'on connaît beaucoup, qui sont très nombreux, et de la Belgique sculpteur sur sable. Ils forment une sorte de communauté, parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, ces sculpteurs sur sable, et c'est un métier à part entière.
Tout à fait. Alors, ils ne sont pas que belges, en fait. Il y a des Italiens, des Russes, avec chacun leur école de sculpture bien particulière. Mmh. Mais en effet, ils se rencontrent tous autour des mêmes événements et donc ils finissent par former une forme de communauté, une confrérie de sculpteurs sur sable, un peu sur un modèle des compagnons du Moyen-Âge. Mmh. Cette pratique très particulière de la sculpture sur sable.
Oui, puis ils doivent échanger aussi leurs connaissances, parce qu'on parlait de géologie, on parlait de chimie, ils doivent, quand vous disiez de 3 tonnes de sable, de faire un bloc compact d'1,50 m sur 80 m, il y a une technique très particulière.
Toute une émulation, en fait, en effet, entre eux, chacun amenant souvent une solution à l'autre.
Et vous avez à l'entrée de Pamela une série de cartes postales de ce qu'a fait Enguerrand David, des commandes.
Il a produit cette série de cartes postales qui retrace un peu. C'est aussi une espèce de. Je crois pour lui, comme une espèce de voyage affectif entre les différentes œuvres. Il y a aussi parfois des photos qui sont un peu plus.
C'est un peu un livre d'or.
C'est une manière de partager quelque chose qui pour lui était de l'ordre de la. D'un partage, aussi d'un partage qui élargissait un peu le. On va dire, Enguerrand est souvent ramené à sa pratique principale, qu'est celle de la sculpture sur sable. Mmh. Ici, il a eu l'occasion de montrer aussi son travail dans la sérigraphie, de peinture aussi.
Donc un artiste à part entière. Moi, je vous avais dit que j'avais vu à Collection Lambert les œuvres de Théo Mercier en sable. Et vous m'avez dit, en fait, Théo Mercier, il a l'idée, mais c'est Enguerrand David.
Voilà.
Et d'autres qui ont fait les.
Théo Mercier, qui est donc fait partie de ces artistes qu'on intégrait dans le champ contexte de l'art contemporain et de ces institutions, parce que là on parle de la Fondation Lambert, mais il y a eu la Conciergerie aussi cette année. Cette pratique de la sculpture sur sable. Et quand il a eu besoin de trouver quelqu'un qui était capable de produire ça, il s'est d'abord tourné vers Enguerrand David, qui lui s'est occupé de trouver le reste des équipes de sculpteurs sur sable.
En fait, ça veut dire que la sculpture sur sable acquiert une certaine, certaines lettres de noblesse. Ce n'est pas qu'un art de plage, ce n'est pas qu'un art éphémère, ce n'est pas réservé aux enfants, même si les enfants vous ont posé beaucoup de questions, parce qu'il y a des classes. Des classes qui viennent et qui posent des questions techniques, c'est ça qui est surprenant.
Ils posent des questions techniques, mais pour revenir à ce que vous disiez, pour nous c'est très important. En fait, on s'est rendu compte dans le cycle d'exposition qu'on propose à Pamela qu'on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est, les médiums incertains. Et nous, ce qui nous intéresse là, c'est
médium
qu'en effet,
incertain, ouais.
c'est une pratique un petit peu exotique de la sculpture sur sable, qui navigue entre plusieurs registres, le registre vernaculaire, le loisir, la plage, la culture populaire, et à un moment rencontre le contexte de l'art contemporain.
Vous m'avez dit qu'Enguerrand a entre 40 et 50 ans.
C'est ça, il a la caméra, ça fait 20 ans qu'il est sculpteur sur sable.
C'est resté un grand enfant.
C'est amusant parce que vous disiez ça, parce que j'ai envie de dire que oui, dans le contexte d'une exposition et d'une résidence où on a un artiste, parfois on se retrouve un peu dans une posture de papa pour lui dire que tout ne sera pas possible.
Oui. Eh oui, c'est le fait de ceux qui organisent tout cela. On peut avoir des idées, puis après, il y a la réalisation. Et vous, à Pamela, vous êtes confrontée justement à...
Ah bah oui, à cette réalité.
Cette réalité. Mais ça vous intéresse aussi.
Ah mais nous, on est, si on le fait, c'est pour ça.
Ouais.
Si on le fait, c'est pour ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est voilà, multiplier ce type d'expérience, en tout cas d'enrichissement. D'enrichissement aussi pour le public. Enfin, c'était aussi la possibilité de proposer. On a des visites de scolaires, des visites.
Et c'est pas un peu court une durée de résidence comme celle-ci pour qu'il y ait encore plus de gens qui viennent ? Non, vous pouvez pas plus, ça a duré 3 mois quoi à peu près.
Oui, on part souvent d'intentions plus modestes. Il y avait aussi cette idée avec cette résidence d'Enguerrand-David, c'est parce qu'on a cette vitrine qui donne sur la rue. Et c'est vrai que c'était aussi intéressant cette interaction que Enguerrand a eue avec la population du quartier,
qui passe
tous les jours et qui voyait cet artiste belge et son sable et qui voyait ce Saint-Nicolas qui se construire petit à petit. Et voilà, donc il y a aussi ces interactions-là.
Alors, je n'ai pas rencontré Enguerrand-David, j'ai pas eu l'occasion, peut-être que je le verrai lors de la démolition.
Finissage.
Il était heureux justement de ce qu'il a fait, il s'est éclaté, comme on dit.
On le souhaite, mais je crois que l'essentiel surtout dans les échanges qu'on a eus, c'est qu'il était, je pense, surpris de la tournure que ça prenait, dans le sens où il s'est dit, mais en fait, c'est plus une résidence, elle est plus intellectuelle que manuelle. En fait, il s'est rendu compte que tout ce qui est remis en question sur... dans le dialogue, dans l'échange qu'on construit. Comme je vous ai dit, c'est très important pour nous aussi de produire un texte critique.
Bien sûr. Dans lequel peut se le procurer, là, les 4 pages.
On peut le procurer ici, voilà.
C'est important. Et je crois que nous allons terminer un peu sur une description plus précise du Saint-Nicolas, puisqu'on a parlé de ses sandales, on a parlé de ses pieds, on a parlé de ses ailes. Oui. On a parlé de son support, le pont Saint-Nicolas. Moi, je voudrais qu'on revienne à sa barbe, parce que Saint-Nicolas, il a un côté... moi, je vous ai dit, cette barbe, ça me fait penser à la Gorgone, ça fait penser à Méduse, un peu triste, un peu violent. Et vous me dites, non, c'est une barbe de clown.
Tout à fait. En fait, au départ, la première barbe était beaucoup plus, on va dire, sculpturale et beaucoup plus sérieuse. Et puis, il réfléchissait, il a dit, non, mais quand même, Saint-Nicolas, c'est un clown. Saint-Nicolas, en fait, quand on le rencontre en Belgique, on sait que c'est un monsieur déguisé en Saint-Nicolas.
Et puis, on s'amuse, il distribue des bonbons.
Et donc, il y avait une barbe. Il a voulu renforcer le côté postiche, donc c'est pour ça que cette barbe, elle prend comme ça cette espèce d'ampleur de barbe postiche.
Je crois que c'est important qu'on conclue ainsi, parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de difficultés, il y a aussi beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Je crois qu'on peut conclure ainsi, tout de même. Tout ça se fait dans la joie, malgré tout.
Dans la jubilation, j'ai envie de dire.
C'est encore mieux. Merci Steven.
Merci.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus.